saine cause. Du bien commun et d'un monde vivable. Émission présentée par André Duny.
Bonjour, André Duny, votre serviteur, la saine cause. Voilà, je reçois aujourd'hui notre ami Gilet Jaune, que j'ai rencontré sur les ronds-points de Pont de Beauvoisin, Marie-Rose Labridoire. Bonjour Marie-Rose.
Bonjour André.
Bon, alors, on va parler comment elle est venue au Gilet Jaune, parce qu'elle n'y était pas au départ. Voilà, les principales revendications, on va remettre un petit peu à jour, et ça tombe bien parce que hier, le président a fait part de ses propositions, donc elle donnera son avis. Et puis, bien sûr, on mettra un accent peut-être particulier sur ce qu'elle lui tient à cœur, les services publics, hein, parce que dans le coin, que ce soit Saint-Béron, Les Pins, Saint-Alban, Labridoire, eh ben, les services publics ou Pont de Beauvoisin, ils désertent hein, nos territoires. Et puis un petit mot sur l'écologie, parce qu'on dit que les gilets jaunes, c'est des gros bourrins qui ne sont pas conscients que... ne seraient conscients que de leur propre fin de mois en tant que classe pauvre. Non, mais attendez, puis il n'y a pas que des classes pauvres d'ailleurs dans les gilets jaunes, puisque moi je ne suis pas une classe pauvre. Mais il y a aussi la fin du monde. Pas que les fins de mois, fin du monde. Donc on en dira un petit mot et vous verrez qu'elle a une forte sensibilité écologique. Et puis on finira par les rendez-vous. Et le rendez-vous surprise, c'est le 1er mai à Pont, le Muguet. Voilà, voilà. Et je voulais juste vous rappeler que vous pouvez regarder sur le site de Radio Couleur Chartreuse, rubrique locale et sous-rubrique La Saine Cause. Vous pouvez également vous rendre sur le site de l'association La Saine, c'est juste Éducation Populaire Nouvelle, coordination de la Nouvelle Éducation Populaire. C'est la-cen.org, j'oublie chaque fois de le dire, la-cen.org, et vous retrouvez 1900 dossiers, hein, il suffit simplement de remonter, et vous avez comment 300 milliards sont donnés par l'État aux riches chaque année, un pognon de dingue d'ailleurs. On parle beaucoup de l'évasion fiscale des 90 milliards ou des 80 milliards, ça dépend, on parle beaucoup de l'ISF. Mais si on prend toutes les niches, toutes les exonérations fiscales d'impôts, donc, pour les riches, pour les entreprises, on a en France minimum 300 milliards chaque année. Vous voyez, du pognon, il y en a pour faire tout ce qu'on veut, et en priorité que les gens vivent mieux, que les retraites soient un peu meilleures. Enfin, les retraites, c'est surtout la Sécu. Ben, qu'on fasse cotiser les patrons, la Sécu, comme les autres, qui ne pas trop de retard. Et je pense qu'on pourrait vivre, comment dire, avoir du pouvoir de vivre plutôt que du pouvoir d'achat, parce que comme pouvoir d'achat, ça connote courir dans les grandes surfaces, essayer... Voilà, on a toujours l'image d'achat de babioles en plastique, alors que c'est pas ça, c'est le pouvoir de vivre, et voilà. Et la question de fond, c'est peut-être les dépenses contraintes, qu'on peut pas s'obliger, quand on a des faibles revenus, de payer ses impôts, et de payer pas ses impôts, puisque la plupart sont exonérés, mais de payer son loyer. Et même avec une APL, bah, c'est très cher, dans les HLM. Voilà. Alors, on a tout dit. Eh bien, écoutez, on va commencer avec la question numéro 1. Pourquoi nous sommes-nous croisés sur les ronds-points, mais aussi aux réunions des Gilets jaunes du coin à Saint-Biron le jeudi? Voilà, comment t'es venue?
Eh bien, moi, je suis arrivée au rond-point par le fait le 17 novembre. J'avais quelques courses à faire. Je suis arrivée au rond-point d'Hyper-U. Et puis, je me suis fait arrêter par les personnes qui avaient leur gilet jaune fluo sur le dos. Donc, je me suis arrêtée très gentiment. J'ai discuté avec eux. Et puis, on a suivi une petite discussion au barrage filtrant. On m'a demandé si je les soutenais. Donc, bien sûr que je soutenais les gilets jaunes, évidemment. Et puis là, on m'a demandé de mettre mon gilet jaune sur le pare-brise. Sur le tableau de bord, voilà. Et puis, je suis repassée sur les ronds-points systématiquement. Je m'arrêtais, j'allais discuter avec eux. J'ai fait connaissance de plein de personnes, Et puis donc, je suis devenue gilet jaune. Voilà, tout simplement. Et donc là, ben, non seulement les gilets jaunes se sont battus pour la baisse des taxes sur le carburant, ce qui apparemment n'a pas été fait, mais de toute la France, on s'est, enfin moi personnellement, je me suis aperçue que la question du pouvoir d'achat de chacun de nous est arrivée. Voilà. Et puis, toutes les revendications et surtout ce que l'on appelle le RIC, c'est-à-dire le référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire la démocratie, la vraie, celle du peuple. Voilà, donc bah, tout ça m'a interpellée et donc j'ai continué à côtoyer toutes ces personnes, gilets jaunes, être parmi elles, voilà. Et puis, bon, bah, on a parlé revalorisation du SMIC, des salaires, les minimums vieillesse, les suppressions de CSG, RDS, l'écologie aussi, bien sûr, parce que bon, on est quand même tous conscients que on est en train de détruire la Terre et que, ben, moi je dis, comme ça, qu'on scie la branche sur laquelle on vit. Si on détruit la Terre, on n'aura plus rien. Voilà. La réinstauration de l'ISF, de taxer les transactions, l'aérien, le maritime, voilà. Alors, moi, personnellement, à titre personnel, je dirais que je suis pas véritablement contre le nombre d'élus, mais surtout contre le cumul des indemnisations. Parce que si on supprime certains élus, on en aura moins, donc ils seront plus loin de nous. Et nous, on est quand même dans un milieu très rural et on a quand même besoin de certains élus et qu'ils soient plus proches de nous. Mais par contre, après qu'ils cumulent les mandats, ben, s'ils sont capables de le faire, c'est dans de bonnes conditions, pourquoi pas. Mais de là à cumuler autant d'indemnisation, après ça devient indécent. J'estime que ça devient indécent, voilà, surtout par rapport à nous. Donc ça, après, ben, ce qui m'a rapproché aussi, c'est le vote à la proportionnelle, la reconnaissance du vote blanc, bien sûr. Et puis alors les services publics, mais nous dans le milieu rural, les services publics ils sont de plus en plus absents, quoi. Ils nous suppriment les services publics alors que dans le milieu rural on en a de plus en plus besoin. C'est un paradoxe et c'est anormal. Voilà.
Eh bien, écoute, on peut rebondir là-dessus. Qu'est-ce que tu as vu supprimer comme service public autour de la Bridoire ?
Ah ben, les services publics, voilà, c'est de moins en moins de postes. Je crois que celle de Pont-Isère a carrément fermé. Celle de la Bridoire est ouverte que le matin. À Saint-Méron, on n'a plus de postes. Nous n'avons plus qu'un point poste. Après, à Le Palais-le-Lac, je ne sais pas si vous avez encore...
Un point poste payé par la commune, voilà. Parce que ces points postes, tu dis qu'à Saint-Béron, à la Bridoire aussi, il y a un point poste.
Alors, à la Bridoire, c'est la poste qui est restée, mais qui n'est ouverte que le matin.
Ah voilà, c'est ça.
Alors, les gens qui travaillent, c'est compliqué d'aller à la poste le matin. Ils partent le matin, ils rentrent le soir. Donc voilà, c'est la poste, c'est les permanences sécu qui sont supprimées ou diminuées. Il n'y a plus de permanence pour monter son dossier retraite. Il n'y a plus de permanence à Pont. Il n'y a plus rien.
Il y avait plus une permanence de la CAF, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y avait comme permanence?
Il y avait une permanence pour monter les dossiers retraite. Eh bien, à Pont, ça a été carrément supprimé. Et quand on téléphone à la CRAM, le service qui s'occupe des retraites, je me souviens plus du nom. Service qui s'occupe pour monter les retraites à Lyon. Il faut appeler Lyon de toute façon, puisqu'il n'y a plus de permanence à Pont. Il n'y a plus moyen d'avoir de rendez-vous à Chambéry non plus. À Chambéry, le seul rendez-vous que l'on peut avoir, c'est pour finaliser le dossier retraite, c'est pour le signer. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Il n'y a plus de guichet dans les gares, il y a de moins en moins de TER, on nous supprime
les... TER, on en a supprimé, hein, on a fait l'émission. On a supprimé, donc, en gros, 8 trains sur 10. On en a remis 1, 2. Donc, voilà. On est à 75% des trains à peu près directs entre Chambéry et Lyon, s'arrêtant en gare de Lépins et de Pont-de-Beauvoisin. Hein. Je crois que Saint-Béron, La Bridoire, Tintin.
Oui, là, je ne sais pas du tout. Alors, certes, voilà. Je ne prends pas le
et
train.
Et plus de gare.
Voilà, oui, il n'y a plus de gare. Il n'y a plus de guichet aux gares non plus.
Voilà. Donc, nous, on a le mieux à Lépins. On n'a ni guichet, ni machine automate.
Oui, alors...
Rien. Donc, on ne peut même pas faire un billet autrement que sur Internet.
Voilà, tout à fait. Maintenant, ça se passe tout sur Internet. Mais bon, il y a beaucoup de personnes. Moi je ne suis pas très douée en Internet non plus. Donc, c'est compliqué hein, de prendre tout sur Internet. Ce n'est pas évident. Hein. Donc, voilà. Ouais.
On estime à combien l'INSEE a fait une enquête récemment. Il y a 25 millions de personnes qui ont beaucoup de difficultés avec l'ordinateur, 7 millions qui ne sont absolument pas connectés.
Tout à fait.
Donc ça fait quand même beaucoup de monde qui sont en difficulté, voilà. Notamment les personnes âgées. Et pour refaire par exemple ces papiers, comment on doit faire? Eh bien tout par internet, tu ne peux plus, si on te vole tes papiers, ce qui m'est arrivé, eh bien il faut aller à la préfecture de Chambéry et on vous dit là, ah non, on ne fait plus les papiers, retournez chez vous, faites-le par internet.
Voilà, tout à fait.
Une subvention que ton association veut déposer, mettons, pour le bien-être animal ou des choses comme ça. Kif-kif, avant, on pouvait demander des conseils pour monter le dossier. Maintenant, c'est terminé. Tu montes ton dossier toute seule ou tout seul de l'association. Il doit être enregistré sur le site de la mairie de... Pas de la mairie, de la préfecture, de la sous-préfecture de Saint-Jean-de-Maurienne. Et il a été en panne un mois. Donc c'est bien pour monter son dossier, avoir une subvention, et là tu loupes la subvention parce que le délai est trop court pour instruire.
Mais oui.
Voilà, toute la liste, donc on paye des impôts, pourquoi finalement?
Alors c'est là où j'allais rebondir, où je suis très interpellée, c'est que par exemple on supprime les paternités, ou enfin tout ce qui n'est pas rentable, on le supprime. Moi ça m'interpelle parce qu'on nous a quand même toujours dit que c'était les impôts qui finançaient le service public. Nous sommes un des pays au monde, je crois, le plus imposé, le plus taxé, enfin voilà. Et donc... Ce sont donc les impôts qui sont censés payer les services publics. Si les impôts payent les services publics n'ont pas lieu d'être rentables et donc n'ont pas lieu d'être supprimés. C'est là où je suis très interpellée. Voilà, c'est au niveau des services publics, c'est... Je sais pas comment on peut les ramener, comment on peut... Voilà, les augmenter, enfin bon, mais je suis très interpellée par tout ça, parce que là, il y a quand même un paradoxe aussi, c'est qu'on paye des impôts, pour payer des services publics, on en a de moins en moins. On a de moins en moins de services publics. Voilà, pour moi, le gros problème.
Alors pour la SNCF, tu le sais, hein, on a fait, j'étais dans le collectif, je parle au passé parce que je ne suis plus dans le petit collectif, je ne sais pas s'il y aura d'autres actions, on attend. On est 5000 à avoir signé la pétition, c'est énorme. Et on a fait 4 manifestations, chacune entre 300 et 250 personnes, 2 à Lépins. Entre parenthèses, la mairesse avait interdit la dernière manifestation parce qu'il y avait un mariage, et ça se tapait la tête sur les... Quand on parle des élus, ils ne soutiennent pas la bagarre, en fait. On leur a demandé de voter des vœux en conseil municipal à Lépins, ils ont refusé. On a demandé de nous faire des photocopies, ils ont refusé. Personne ne soutient, pas même chez toi, à La Bridoire.
Ah oui. Ah
donc oui. Voilà, 4 manifs, 4 rendez-vous avec la direction de la SNCF et avec élus régionaux pour un résultat à peu près nul. C'est-à-dire qu'on avait 80% des trains supprimés, ben on en a récupéré 1 ou 2. Et on attendra 2020 pour en avoir 2 ou 3 de plus.
Voilà, oui.
Donc adieu les trains de l'avant-pays savoyard, après adieu la poste, adieu la CRAM, adieu les permanences, adieu l'aide à refaire ses papiers, soit en préfecture, soit en mairie. Adieu, voilà.
Adieu tout, quoi, voilà.
C'est
oui,
ça. Par contre, cochon de payeur, toujours.
Oui, et nous sommes dans un milieu rural. Voilà, le gros problème du monde rural, c'est que voilà, on ne connaît pas, on nous oublie.
Total.
On ne connaît pas, voilà.
Eh bien, après ce petit tour d'horizon, est-ce que tu penses que le mouvement Gilets jaunes, alors ça c'est une petite question incidente, comme tu le disais, pourrait faire jonction, c'est la question de la convergence, mais pas de la convergence type on met sur la banderole un tas de calicots, puis on fait le radeau de la méduse de toutes les associations et organisations pour sauver les choses, comme disait quelqu'un qui disait, c'est le radeau de la méduse, on fait des calicots, on met 20 logos et puis on pense que ça fait une force. Comment créer le rapport de force, justement, pour imposer au pouvoir, alors on ne va pas faire du grand baratin, mais ce pouvoir est rien d'autre que l'antichambre des riches, l'antichambre des multinationales, du CAC 40, c'est-à-dire les 40 plus grandes multinationales de France, et des milliardaires de France qui sont, je ne sais plus combien, 50, 60, 70, et voilà.
Dont oui, ça, voilà. Ben on sait que c'est 2% de la population qui détiennent 80% des richesses. Et
voilà.
C'est énorme, et oui, là aussi, il y a de quoi être interpellé, parce que, ben, ne serait-ce qu'au niveau de l'écologie, ces personnes s'enrichissent, sont avec des produits multiples et variés, pesticides et autres, qui détruisent les abeilles, plus d'abeilles, plus de pollinisateurs, voilà. On détruit la terre, on pollue aussi, on récupère ce que l'on appelle les terres rares pour construire des batteries de voitures électriques. Alors là aussi, mais c'est quelque chose d'assez énorme. Voiture électrique. Donc on ne nous parle plus que de voiture électrique, voiture électrique. Il faut savoir quand même que les voitures électriques, elles sont pas propres. On construit des batteries en allant polluer les terres là-bas en Afrique pour récupérer donc ce que l'on appelle toutes ces terres rares, qui ne sont pas si rares que ça, mais bon voilà. Et ensuite, les batteries, on les recharge avec de l'électricité nucléaire. Alors, je ne suis pas une anti-nucléaire, parce que si on nous supprime le nucléaire, on n'a plus de jus en France, hein, ou très peu. Donc, voilà, mais sans être une anti-nucléaire, il faut quand même reconnaître une chose, c'est que le nucléaire, c'est quand même pas une énergie propre. Alors, on nous parle de voitures électriques propres. Ben, pour moi, non, je suis désolée, ce ne sont pas des voitures propres, entre les batteries. Et puis, en plus, les batteries. Alors c'est comme tous ces nouveaux produits que l'on crée, les panneaux photovoltaïques et tout, c'est bien, c'est très bien, il faut faire une transition écologique, mais moi je pense qu'on est dans le faux. Comment est-ce qu'on peut faire une transition écologique avec des panneaux photovoltaïques dont on ne connaît pas, une fois qu'ils lâchent, comment on les recycle? Les batteries, c'est pareil. Comment nous allons recycler toutes ces batteries de voitures électriques? Aucun cahier des charges n'est mis en place lorsqu'on crée un nouveau produit. Il n'y a aucun cahier des charges qui n'est mis en place pour ensuite la revalorisation, la récupération, enfin bon, de tous ces produits. C'est alarmant et malheureusement, ça enrichit toutes ces personnes qui sont dans ces systèmes-là. Et puis, c'est nous qui allons subir encore derrière toute cette pollution.
Vous voulez quoi ? Vous voulez quoi ?
Me battre.
Vous voulez quoi ?
les femmes. Mon entrée en résistance, c'est le souci d'informer les gens. Alors nous avons écrit des petits tracts et c'est comme ça que nous avons commencé.
Bien, moi je trouve, et ce qui m'a fait rejoindre les Gilets jaunes, c'est bien qu'on mette en cause le fond du problème, c'est-à-dire le fond, la production. Quand l'industrie produit 2 ou 3 milliards de tonnes de plastique, il ne faut pas demander aux gens d'y aller à la petite cuillère individuellement sur une barque pour aller enlever le plastique de la mer Méditerranée.
Oui, tout à fait, ça aussi. Là, on touche un problème, ben, les océans qui sont complètement pollués par tous ces plastiques et tout. On sait très bien que le monde du plastique, c'est le monde du pétrole et autres, et ça génère une pollution immonde. Donc, l'écologie, ça touche tous ces déchets et tout, ça touche le monde animal, que ce soit dans les océans, que ce soit sur la terre, que ce soit les insectes. Là, je parlais des abeilles, c'est tout. C'est tout, l'écologie, ce n'est pas qu'un seul domaine. Ça touche bon nombre de choses, et les Gilets jaunes, on en parle aussi entre nous, on est très touchés aussi par tous ces phénomènes-là. Les Gilets jaunes, c'est pas des idiots non plus, hein. On est bien conscient de tout ce qui se passe autour de nous, et notamment de toute cette pollution diverse et variée, et puis voilà quoi.
Alors on vous accuse de, puisqu'on est sur le chapitre écologie et Gilets jaunes, on vous accuse d'être des gros bourrins qui refusaient la transition écologique et énergétique en refusant la taxe gasoil, la taxe pétrole. Comment tu réponds à l'argumentaire dominant?
Oui, ça
parce que moi,
rire.
Je vois beaucoup d'écologistes disent ouais, mais attends, mais c'est pour bien les Gilets jaunes parce qu'ils veulent pas taxer le gasoil. Les énergies fossiles qui foutent le climat en l'air.
Non, c'est pas qu'on veut pas qu'on nous taxe les énergies fossiles, c'est qu'il faudrait déjà que toutes les taxes qui sont prélevées soient bien remises Pour l'écologie, voilà, c'est qu'on sait pertinemment que les taxes qui ont été mises plus n'importe dans tous les domaines ne vont pas à l'écologie. C'est là où nous ne sommes pas d'accord. C'est pas que nous ne sommes pas d'accord pour taxer ou pour payer des taxes à notre niveau, bien sûr. On ne pourra pas non plus payer des taxes énormes compte tenu des ressources que nous avons, mais on n'est pas idiots. On s'est bien rendu compte que toutes les taxes qui avaient été proposées n'allaient pas à l'écologie. C'est là le gros problème. Il y a notamment une taxe sur nos factures d'électricité. Je me rappelle plus du nom de la taxe. Mais bon, c'est pour financer l'écologie. Bah oui, mais sauf que on nous a encore pas donné le montant de la taxe qui a été récupérée sur les factures électriques, et puis les montants, ben, à quoi ils ont servi au niveau écologique, ça on ne le sait toujours pas.
Voilà. À condition de ne pas mettre dans l'écologie, peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses, les éoliennes géantes de 280 mètres de haut, bientôt presque la tour Eiffel, avec des pales de 180 mètres de diamètre, hein, une pale 90 mètres. Donc ces systèmes géants, tout en plastique, bouffent 900 tonnes de béton par éolienne. Or, oui, il y a un programme de 12 000 éoliennes. 900 tonnes de béton, ça détruit tous les réseaux hydrologiques souterrains.
Oui, voilà,
et ça restera dans le sol pendant 1000 ans.
Voilà, c'est là
c'est le problème. De l'écologie, les grandes éoliennes. Hein.
Non, pas du tout. Il y a des tas de problèmes comme ça. Je suis tout à fait d'accord. Il y a des tas de problèmes qui ressurgissent, les éoliennes et autres, les éoliennes géantes. Enfin bon.
Et surtout que c'est la propriété des grands groupes financiers et industriels et qu'ils vont laisser une petite taxe ridicule, ils vont laisser un petit bénéfice ridicule aux collectivités sur lesquelles elles seront installées et tout le reste partira à 10 000 km dans les poches des actionnaires, si c'est les multinationales qui les installent, naturellement. Mais je voudrais revenir, et tu es pour taxer, toi, l'aviation intérieure, extérieure, les grands bateaux qui amènent les plastiques de Chine chez nous, là, les arrosoirs en plastique et tout ça, hein, sachant qu'un
oui,
grand porte-container fait combien ? Il fait 12 tonnes de fuel lourd à l'heure, 12 tonnes à l'heure. Il faut 10 jours pour revenir de Chine, hein.
Oui,
12 tonnes à l'heure.
C'est
40 millions de bagnoles.
Ouais, c'est juste énorme. Et oui, tous ces porte-containers, et notamment celui qui vient de s'échouer, justement, pas très loin de nos côtes françaises aussi, avec des containers de produits toxiques qui se retrouvent dans les océans. Et puis voilà. Ben, bien sûr que bon, il serait grand temps de taxer tous ces gros porte-conteneurs, ces avions, ces gros avions, c'est insupportable de voir que on n'arrive plus à vivre nous en fin de mois et que tous ces grandes firmes, ces grands trusts et autres, ben, ne sont pas taxés.
Ouais. Alors, on a parlé un peu d'écologie. Toi, tu étais intéressé au niveau de ce qu'on pourrait appeler une écologie municipale ou locale. Là, on vient de parler d'écologie sociale, c'est-à-dire qu'on taxe quand même moins le gars qui a 1000 euros par mois avec une caisse pour aller au boulot, parce qu'il habite en zone rurale, que certainement des messieurs dames qui prennent l'avion et en rappelant que s'ils vont à New York... eh bien, chaque passager fait une tonne de CO2. Une tonne de CO2, tu prends la bridoire où tu habites, c'est plus que la surface d'un volume qui prendrait tout le territoire de la bridoire en bas et qui ferait un cube jusqu'en haut de la même dimension, enfin du même, c'est-à-dire un énorme cube pour faire une tonne. Et ben voilà ce que projette dans l'atmosphère un passager qui fait Paris-New York aller-retour. Ouais. Donc c'est hallucinant. Alors, on a dit qu'on taxerait les choses, mais si on revient à une échelle municipale, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire aussi au niveau de la Bridoire ou de Saint-Béron
De toute façon, dans toutes les petites communes, je pense qu'il y a des choses à faire. Bon, des jardins partagés, entre autres. Bon, après, il y a tout ce qui est récupération des déchets ménagers, cantines, les cantines d'hôpitaux, des maisons de retraite et autres. On pourrait faire des méthaniseurs, hein, c'est ça ?
Méthaniseurs,
ouais, des si méthaniseurs, veux, ouais. Voilà, des méthaniseurs, voilà.
Municipaux qui récupéreraient tous ces déchets.
Municipaux, alors voilà. Après, il faudrait créer une filiale pour déjà récolter tous ces déchets. Et puis, je sais pas, mettre un point et puis créer des méthaniseurs. Je sais pas, par zone, par canton, par voilà. Après, il y a plein de choses à voir au niveau local. Et puis au niveau département et ainsi de suite, voilà, grossir après tout doucement. Mais c'est pareil quand on parle de tous ces déchets, tous ces déchets plastiques, vidéo, audio et autres, informatiques, c'est pareil. Et tout ce qui est électroménager, nous payons des taxes à l'achat de ces produits, des taxes pour justement les recycler derrière. Et on s'aperçoit que ce sont des conteneurs qui partent en Afrique et que c'est déposé sur les côtes d'Afrique. Et c'est pas recyclé. Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité aussi de créer des centres, je sais pas, ne serait-ce qu'un dans chaque département? Ça pourrait créer des emplois. Récupérer un petit peu le plastique, le verre, les métaux qui sont dans tous ces produits, et puis les réinjecter dans l'industrie. Ça éviterait d'aller en chercher ailleurs et de les réutiliser à l'infini. Et ça pourrait peut-être aussi, comme je le dis, créer des emplois multiples et variés. Hein, avec la filière bois, tous les déchets bois, créer de l'alcool de bois pour mélanger après et faire du carburant également. Je pense qu'il y a de multiples choses à faire au niveau local pour démarrer et puis grossir tout doucement au niveau canton, département, région, et puis voilà.
Oui, ça serait peut-être... avec tout l'argent public dont on a parlé, 300 milliards ou ne serait-ce que les 90 milliards d'évasion fiscale, toi tu dis on recycle en masse en France et on crée de l'emploi à ce niveau-là, oui. Parce que les petites recycleries, c'est très sympa, hein, t'as vu, il y a une recyclerie qui s'appelle l'Alternateur ici, Saint-Laurent. Et puis à Pont, il y a une petite recyclerie mais qui est ouverte quelques heures par semaine. Moi, chaque fois que j'y vais, c'est fermé. Voilà. Où on peut déposer des bricoles, mais où on essaye de faire aussi une revalorisation, hein, c'est-à-dire récupérer des vieux pneus, ça permet de faire des sacs design avec le caoutchouc des pneus. Mmh. On peut refaire des choses sensationnelles. Les vêtements peuvent être aussi recustomisés. Tout y quanti. Mais c'est à une petite échelle. On a plus l'impression que toutes ces petits jardins, partagés, on ne va pas être méchant, comme celui de la Bridoire où se trimballent, disons, 2-3 personnes, 2 poireaux par-ci, une patate par-là. Sans être ni méprisant, ni c'est très sympathique,
non,
c'est très bien,
tout.
Ça permet aux gens de sortir.
C'est super sympathique, on se retrouve sur les jardins et tout, on fait des soupes
à
l'automne, c'est très très agréable. Hein.
Très agréable, mais est-ce que la question, c'est pas plutôt maintenant de passer à la vitesse au-dessus, vu tout ce qui arrive? Alors je vais parler dans la prochaine émission de la crise financière, hein, qui arrive au grand galop, hein, tout le monde le dit, c'est une affaire de semaine ou de mois pour que ça pète bien plus grave qu'en 2008. Et donc avec la récession qui va s'en suivre, et la dépression économique, la récession sociale, et le fait qu'il y a encore 2 ou 3 millions de chômeurs à la clé en France, ça va fermer dans tous les coins, et il y aura encore moins de ronds pour les services publics. Est-ce que c'est pas de passer à vitesse supérieure? Tu as parlé de jardin, alors on peut dire partagé, mais collectif.
Oui, hein, enfin, jardin partagé, jardin collectif. Oui,
ça, on aurait si des hectares à cultiver,
voilà,
où on aurait
tout à fait
de quoi se faire à bouffer, pas vraiment seulement 2 poireaux par-ci par-là. Ça, c'est sur l'aspect un peu utilitariste, hein. Je m'excuse, hein,
oui,
pour
mais
nos auditeurs.
André...
Surtout au niveau de créer des lieux pour s'alimenter.
Oui, seulement, il faut déjà, je pense, commencer par les jardins partagés pour inciter les gens, pour leur montrer un peu comment ça fonctionne.
C'est ça, vertu pédagogique.
Voilà, dans un premier temps, mais c'est vrai que pour mobiliser les personnes, c'est pas évident. Jardin partagé, or oui, c'est petit, c'est un peu, voilà, c'est un peu juste. Il faudrait passer un petit peu au supérieur, mais ça va être compliqué de passer au supérieur tout de suite. Il faut déjà, je pense, déjà instaurer des jardins partagés un peu de partout, de plus en plus, pour pouvoir ensuite passer, comme tu dis, à l'étape communale, où là, il y aurait des hectares carrément.
Alors,
cultivés.
Tu serais pour un RIC communal, RIC, est-ce que tu serais pour un RIC communal où on demande, on fait voter les habitants pour ou contre passer du jardin pédagogique, moi ce que je reproche au jardin pédagogique, c'est ses clos sur eux-mêmes. C'est-à-dire, ça n'a pas d'horizon. Une fois qu'on a mangé, bu des tisanes, on s'est retrouvé, c'est plutôt sympa. Je reconnais, j'en ai géré un. Enfin, c'était pas tout à fait un jardin pédagogique. À Perona, c'était plutôt un jardin familial.
Ouais.
Mais ça avait cette vertu-là, parce qu'il y avait beaucoup de Marocains. On prenait le thé, on discutait, on échangeait deux, trois techniques. J'essayais de faire arrêter le round-up. Mais je vois qu'aucun n'a comme horizon d'être des foyers de citoyenneté pour que inciter à passer à une échelle supérieure dans la commune, que la commune rachète des terrains pour la cantine, réinstalle des agriculteurs,
tout
fasse des grands jardins collectifs.
Hein. Oui, 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 non, mais ça, tout à fait, oui, oui. Eh ben, oui, certes. Alors maintenant, oui, se pose aussi le problème de la, du RIC communal, entre autres, le référendum d'initiative citoyenne, mais au niveau communal, ce serait bien aussi que de faire participer les citoyens dans leur commune et leur poser des questions, savoir s'ils sont pour, s'ils sont contre, parce que même dans les petites communes, on s'aperçoit que ben les citoyens, ils sont un peu laissés pour compte aussi, hein, c'est clair, c'est...
Bon, toi, tu vas au conseil municipal de temps en temps regarder.
Oui, voilà, oui, j'assiste très le plus souvent possible au conseil municipal en tant qu'auditrice, puisque n'étant pas élue, je n'ai pas droit à la parole, mais au moins écouter, voilà, écouter, puis savoir un petit peu ce qui se passe. On ne sait pas tout non plus, puisqu'ils ont des réunions internes. Ils
voilà.
Ne disent pas tout non plus.
Les décisions se prenant surtout entre les adjoints.
Oui, voilà, entre les adjoints.
Donc, il n'y a pas plus de démocratie au niveau municipal que national.
Ben, apparemment. Voilà, ah, bon. La démocratie fout le camp, quoi.
Voilà. Alors, on va terminer. Ouais. Alors, Marie-Rose, si tu veux bien. Alors, je rappelle, Marie-Rose, habitante de la Bridoire, elle n'a pas voulu le dire, mais elle a bossé en entreprise, elle a bossé dans divers boulots, elle a repris des études, elle a fait agent immobilier, gardienne de propriété, et a eu beaucoup de soucis de santé. Voilà, et donc, elle fait partie de ceux qui ont connu toutes sortes de précarités. Bon, voilà.
La galère.
Voilà, et
la
des galères. Voilà. Donc, alors, on va peut-être terminer sur, merci de tous tours, qui, j'espère, vous aura intéressé, amis auditeurs. Hein.
Je l'espère aussi.
Voilà. Alors, si vous voulez connaître un peu mieux Marie-Rose et les Gilets jaunes, parce qu'il y a une majorité de femmes.
Oui, aussi.
Et qui, elles, sont particulièrement dans la galère, puisqu'on sait qu'à salaire égal... salaire égal, pardon, ouais. Je prends mes rapports des réalités. À travail égal, le salaire est totalement inégal en France. Hein, c'est encore moins 25%. Mm. Ça dépend des statistiques, c'est entre moins 20 et moins 30. Mais surtout, c'est la précarité, c'est les femmes seules avec du boulot.
Et puis c'est au niveau des retraites aussi.
Et c'est au niveau des retraites et cacahuètes.
Et
retraites cacahuètes. Ouais, on élève des gamins et après, bah, il manque. Et alors, avec la retraite par points, ça va être canossa. Donc, voilà, on n'a pas trop parlé des propositions Macron.
Vrai que le temps passe vite,
voilà,
et puis il y aura tellement de choses à dire sur tout que voilà, le temps passe vite. Mais
voilà.
Oui, on peut inviter quand même. Moi, je souhaiterais quand même inviter un petit peu toutes les personnes qui se sentent gilets jaunes, qui nous soutiennent. Bon, quand on est sur les ronds-points, c'est les klaxons, c'est sous. C'est lâcher rien,
voilà.
Continuer comme ça et tout. Mais il faudrait quand même que ben, ces personnes s'arrêtent un petit peu. On est gilets jaunes, on s'arrête une demi-heure, on vient discuter avec ceux qui tiennent le rond-point. Moi, je sais que je tiens pas forcément de 10h jusqu'à 8h le soir, hein, c'est non. Mais j'y vais 2h par-ci, 2h par-là. Voilà, donc, s'il vous plaît, allez, mobilisez-vous. Il faut que le peuple se mobilise, c'est important. C'est pour nous, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants. Il faut vraiment, vraiment qu'on fasse bouger les choses. Donc, il faut que tout le monde se mobilise, il faut que le peuple se bouge, voilà.
Alors, le 1er mai ?
Alors, le 1er mai, donc, il y aura distribution de muguet au rond-point à Pont-Savoie. Voilà. Et puis.
Gratos.
Oui, bien sûr, gratuitement. Les gilets jaunes, ça, c'est gratuit. Après,
rendez-vous au rond-point de Pont-Beauvoisin à.
Alors, je crois que c'est de 10h à 12 ou 13h, quelque chose comme
10
ça.
10 à 12, vous aurez votre brin de muguet.
Muguet, gratuitement, voilà, on va vous offrir le brin de muguet. Et puis bon, bah, n'hésitez pas, c'est le 1er mai, personne travaille, allez, on prend le temps, on prend une demi-heure, on s'arrête.
On vient boire un coup.
Voilà, on vient boire un coup, on vient
on
discuter.
On papote.
Voilà, on vient discuter, parce que c'est super sympa, super agréable.
Mais c'est pas ouvert au terreau riche, hein.
Ah non,
puisque
non.
Héloïse, elle nous a mis une banderole alto
Au terroriste.
Il y aura une prochaine banderole, t'es d'accord, toi, hein.
Oui.
Ça sera sans la nature, pas de futur.
Ah oui, oui. Eh ben,
pas de futur sans la nature.
Eh ben oui, tout à fait. Ça c'est clair. C'est
alors,
net,
1er mai, la nature, c'est le brin de muguet.
Par contre, André, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on parle aussi des réunions le jeudi soir à Saint-Béron.
Ah oui, disons un mot. Ouais.
À 17h30. Donc, pour tous ceux qui veulent, hein, tous, alors, les gilets jaunes, hein, nous, on arrive de tout bord, de tout niveau et tout, mais on fait connaissance, mais on ne se pose aucune question. Donc, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas qui est qui a fait quoi, on s'en fout, on est gilet jaune, on a des revendications, on se réunit donc tous les jeudis soirs à 17h30 à la Maison des Associations à Saint-Béron. Voilà, Saint-Béron.
Et
voilà.
C'est ouvert à tout le monde.
Et c'est ouvert à tous, voilà, tout le monde, toute personne confondue, voilà.
Et alors on fait quoi le 4-5 mai?
Et puis alors le samedi 4 mai, donc c'est rendez-vous à Chambéry avec Jérôme Rodriguez qui se déplace à Chambéry le samedi après-midi.
Qui a perdu un œil avec le flashball.
Ah oui, Jérôme, oui, tout à fait. Et puis donc le soir, je crois que ça se termine. Alors là, l'après-midi, il y a manifestation avec des questions et autres. Hein, voilà. Le soir, je crois qu'il y a comme un petit concert le samedi soir. Voilà. Et le dimanche 5, hein, si je me suis pas trompée de date.
Grand pique-nique.
Il y a un grand pique-nique organisé, voilà, et normalement, hein, si je ne me trompe pas non plus, hein, je crois que Jérôme Rodriguez,
il
sera également.
C'est Parc du Vernet.
Parc du Vernet, voilà, tout à fait.
Voilà, et on continue le samedi suivant.
Voilà, samedi
et
suivant.
Et les autres samedis.
Et normalement, les autres samedis, au rond-point à Pont, et puis là où
le jeudi à Saint-Béron, Maison des Associations. Donc au rond-point de Saint-Béron, vous prenez à droite si vous venez de la Bridoire où habite Marie-Rose.
Tout à fait.
La Bridoire, Marie-Rose.
Oui.
Vous prenez le rond-point à droite. Et il y a un grand no man's land, une espèce de terrain vague. Et ben, c'est la cabane. C'est une espèce de local où on.
Au fond, ça rigole
et ça discute.
Voilà, oui, on rigole aussi des fois beaucoup. Voilà. Oui.
Voilà. Et puis, les samedis suivants, ça va être acte 23, 24, 25, 26, 27.
Voilà, au rond-point, à Pont-Savoie. Voilà.
Toutes les raisons pour lesquelles le mouvement est parti, sont là. Toute la nécessité de faire converger toutes les forces qui veulent le changement sont toujours là. Espérons qu'après les européennes où tout le monde est dispersé, où heureusement, je sais pas ce que t'en penses, il n'y a pas de liste gilet jaune qui aurait fait.
Non, mais de toute façon,
aurait fait récup de chez récup.
Oui, voilà, c'est pas.
Il y a toutes les raisons pour un grand mouvement de printemps. Rassemblant les ouvriers, les employés, les agents de la SNCF, des services publics, tous ceux qui sont victimes du système.
Voilà, tout à fait.
Macron en démission ou pas?
Macron démission, voilà.
Ben oui, allez, on termine là-dessus et on va boire un canon. Bravo, merci. Alors,
merci à toi, André.
Marisol, je l'ai chopé au collet. Elle va vite aller à sa séance parce qu'elle a un petit souci maladique.
Voilà.
Et là, elle est pile poil à l'heure pour être à sa séance.
Kiné, voilà.
Ouais, merci à elle et puis à bientôt.
Merci à tous.
Voilà, merci.
C'était la Seine Cause pour un bien commun et un monde vivable.